Bien trop tard pour infléchir le réchauffement climatique. L'homme a cru la terre inépuisable.
Il y a beaucoup de défis à l'avenir en ce qui concerne la décarbonation des transports et les nouvelles énergies. Ce n'est pas juste le passage à l'électrique. Il y a la question des matériaux dans lesquels les nouveaux transports seront fabriqués, de leur origine aussi. Si on veut faire des transports durables, c'est à toute la chaîne de fabrication qu'il faudra penser. Comment les matériaux sont sourcés, comment l'énergie est développée, comment elle est distribuée, comment on recyclera tout ça. C'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut inventer. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie plein de technologies différentes. Aujourd'hui, c'est l'électrique et les batteries, demain peut-être l'hydrogène, à l'avenir peut-être une sorte de solution hybride.
Alors quand on parle de transition énergétique, l'hydrogène est, je dirais, l'atome auquel il faut prêter le plus d'attention. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est l'atome le plus présent dans l'univers. On est à plus de 94% de l'univers qui est basé sur de l'hydrogène. Alors, malheureusement, sur Terre, il est quasiment jamais à l'état natif. Il y a quelques gisements naturels, des émanations naturelles d'hydrogène, notamment en Afrique. Mais donc, il va falloir le produire.
Et pour le produire demain, il faudra des centrales nucléaires, des éoliennes. Donc, ça veut dire que pour produire massivement du transport aérien avec de l'hydrogène, c'est délicat.
Idéalement, à l'horizon 2080, on pourrait imaginer que l'ensemble du secteur aérien soit passé à l'hydrogène, mais les avions à hydrogène constituent un défi technologique. Ça, c'est une certitude. L'hydrogène est un gaz. Donc, il présente l'intérêt d'une grande densité d'énergie. C'est-à-dire que pour un kilo, en parlant de kilogrammes d'hydrogène, on a trois fois plus d'énergie que dans un kilo d'essence. Donc ça, c'est très intéressant. Malheureusement, comme c'est un gaz, il prend beaucoup de place. Donc, la seule solution, c'est de changer ce qu'on appelle la phase de stockage d'hydrogène, passer de la phase gazeuse à la phase liquide. L'hydrogène devient liquide à moins 253 degrés. Donc on comprend bien qu'il y a deux contraintes associées à cela. La quantité d'énergie qu'il va me falloir pour descendre la température de l'hydrogène pour qu'il devienne liquide. Et ensuite la quantité d'énergie qu'il va me falloir pour maintenir cette température ultra basse pour qu'il reste sous forme liquide. Honnêtement, en y mettant d'une part la volonté, mais également les moyens financiers, les moyens industriels, les moyens de la recherche, cet avion idéal peu impactant sur l'environnement à l'horizon 2080 semble tout à fait envisageable.
Mais que se passerait-il dans un futur où les transports les moins polluants auraient trop tardé à être développés? Dans ce cas-là, l'humanité risque de payer longtemps le retard pris au début du siècle. Nathan parvient enfin aux portes de la base militaire, gardée par deux cerbères robotisés.
Montre-moi tes mains!
Il va vite voir si son passe falsifié fait illusion. Nathan sait ce qu'il risque en s'aventurant dans un complexe militaire. Mais l'armée est désormais la seule autorisée à faire voler les avions.
Je m'en occupe, soldat. Scan en cours. Ne bougez pas. Autorisation en règle.
Après de longues minutes incertaines, Nathan est autorisé à entrer. Si la décarbonation des transports a tardé, les avions à hydrogène existent bel et bien. Mais ces solutions demeurent coûteuses. Les matériaux et les ressources sont désormais trop rares. La seule chance pour Nathan de rejoindre sa femme, c'est d'arriver à se glisser dans l'un de ces avions.
2080, il faudra faire avec moins d'énergie et sans doute avec moins de matériaux, en particulier avec des contraintes sur un certain nombre de métaux critiques, les terres rares, le cuivre. Toutes les réponses qui ajoutent de la technologie, en fait, ajoutent dans la plupart des cas soit plus d'énergie, soit comptent sur au moins autant d'énergie qu'aujourd'hui, soit comptent sur davantage de matériaux. Quand on cumule tous les besoins, toute l'énergie que tout le monde demande aujourd'hui, en particulier avec des solutions technophiles, c'est peu vraisemblable que ça passe. C'est peu vraisemblable que ça passe. Ça va coincer quelque part.
C'est sûr que la construction de l'Hyperloop est un sacré défi en matière d'infrastructure. Rendre des tubes étanches, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire avec les conduites d'eau ou de gaz, par exemple. Donc la technologie existe. Mais il faut être honnête et réaliste. L'impact environnemental de la construction de l'Hyperloop est important. C'est beaucoup d'émissions de CO2 pour fabriquer le béton, idem pour l'acier. Donc ça, c'est un défi. Mais je pense quand même que sur le long terme, les avantages de ce mode de transport durable l'emporteront sur les inconvénients d'une grosse infrastructure en matière d'environnement. Mais ce n'est pas simple, c'est sûr.
Il va aussi y avoir le problème du réseau électrique. Même quand il s'agit d'électricité renouvelable, construire d'immenses fermes de panneaux solaires là où il y a du terrain disponible, c'est très bien. Mais relier ces sources d'énergie extrêmement lointaines avec les lieux où on consomme cette électricité, ça va nécessiter beaucoup de lignes à haute tension, et c'est encore assez compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix que de produire cette électricité verte à proximité de là où elle est consommée. Et ça, ça va être un souci pour ces nouveaux transports longue distance. Rien que de mettre en place le réseau électrique, ça pourrait prendre 20 ans. Peut-être que de nouvelles politiques publiques pourraient aider ça. Mais tel que c'est maintenant, ça me paraît encore un fantasme.
C'est une question difficile. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nouveaux transports? Ou devrait-on s'arrêter là et rester davantage chez nous? Est-ce qu'on devrait vivre plus localement, moins relié au reste du monde? C'est pas simple. Moi, je pense quand même que c'est dans notre nature, nous les humains, de vouloir explorer le monde et d'aller voir toujours plus loin. Donc, même si on sait qu'on va devoir utiliser moins d'énergie, je pense qu'on aura toujours besoin de rencontrer les autres et d'aller toujours plus vite quelque part. C'est inévitable, on voudra toujours des transports plus rapides. Quelles que soient les innovations dans les transports, leur impact environnemental n'est pas toujours clair. Ce qu'il faut étudier, c'est leur impact à grande échelle. Et surtout, voir en quoi ces nouveaux transports vont modifier nos comportements. C'est ce qu'on a vu avec les avions. Moins les trajets sont chers, plus les gens voyagent. Donc oui, plus ces nouvelles technologies des transports seront écologiques, mieux ce sera. Mais ça aura toujours un impact. Si on crée un nouveau moyen de transport pas cher et pratique, il faut aussi regarder en quoi ça va modifier le comportement des voyageurs. Ça les incite à voyager plus.
Dans un futur idéal, Nathan poursuit paisiblement son vol à travers la mégalopole. L'expression « passer son permis de conduire » n'évoque plus rien à ce jeune urbain, qui dans ses déplacements se livre à toutes sortes d'activités, excepté celle de conduire. Comme celle de se plonger dans un film du siècle dernier. En 2080, nous serons 8 milliards à vivre dans les villes, soit 80% de la population mondiale. Et pourtant, les embouteillages ou les accidents ne seront qu'un lointain souvenir pour une génération de centenaires prêts à vivre très longtemps encore. Nathan doit finalement rejoindre son épouse à la clinique. Le drone de transport calcule automatiquement son nouvel itinéraire et poursuit son voyage au sol. Dans ce futur-là, les villes sont devenues durables, végétales et autosuffisantes. Et les rues ont été totalement redessinées pour réduire les trajets du quotidien.
Les villes sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. Donc, la façon dont les villes du futur seront conçues et organisées, c'est ça qui va changer nos modes de vie, et donc nos émissions de CO2. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de technologie miracle des transports pour réduire le réchauffement climatique. Il va surtout falloir réduire notre besoin de transport. On voit des millions de gens chaque jour faire de longues distances pour aller travailler. Heure de pointe le matin, heure de pointe le soir. C'est complètement dysfonctionnel. Il faut qu'on progresse sur cette notion très simple, mais très difficile à mettre en place, d'harmonie vie et travail. Si on travaille quelque part, il faut que l'on puisse habiter pas loin. Ce qui veut dire avoir accès à des logements abordables et de qualité près de son lieu de travail. Idéalement, tout le monde devrait pouvoir faire ça. Les professeurs des écoles, les policiers, les pompiers. Et pour ça, il faut des lois sur le prix du foncier. C'est bien plus important que n'importe quelle nouvelle technologie de transport.
Ce qui se passerait si les gens avaient tout à proximité de chez eux, c'est qu'ils se déplaceraient moins. Et le déplacement domicile-travail aujourd'hui, c'est ça qui est mauvais pour l'environnement. Et puis si les distances sont réduites, on se met à utiliser des modes de transport plus écologiques, comme le vélo ou la marche tout simplement.
Avec ce genre de scénario, on n'a plus besoin de voitures classiques. On pourra changer pour des mobilités beaucoup plus légères, des véhicules pour une ou deux personnes. Comme par exemple notre prototype de vélo qui se transforme en tricycle autonome quand personne n'est dessus. Un tricycle qui vient jusqu'à vous, comme quand vous appelez un taxi ou un Uber, et qui se convertit en vélo quand vous montez dessus jusqu'à votre destination. Et puis là, il repart en mode tricycle autonome pour récupérer la personne suivante. Ça, c'est le genre de nouvelle mobilité qui me passionne pour le futur.
Imaginez par exemple, le matin à l'heure de pointe, ces petits véhicules seraient une sorte de service de mobilité à la demande. Et puis une fois les gens au boulot, ils redeviendraient autonomes et serviraient à autre chose, à livrer des paquets, des repas dans la journée, à ramasser les poubelles ou à nettoyer les rues. L'idée, ce serait d'avoir des engins en fonctions multiples dans la journée, ce qui permettrait de les rendre toujours utiles et de réduire le nombre de véhicules présents dans les villes.
L'appareil à hydrogène dans lequel s'est réfugié Nathan approche enfin de la mégalopole. Dans ce scénario pessimiste, cette ville tentaculaire a été construite à la hâte pour regrouper les habitants victimes du réchauffement climatique. Tout est automatisé et rien n'a de sens ici. Les trajets du quotidien sont longs, les déplacements complexes et chers. Les quartiers résidentiels à des centaines de kilomètres des commerces. Déplacement, Nathan se trouve une place entre les colis dans un camion de livraison autonome. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il enfreint la loi. Autonome et suivent un trajet programmé. mais ils n'ont pas réduit le nombre de véhicules sur les routes. Tous ces engins sans conducteur ne sont ni partagés, ni accessibles à tous. Le camion emmène Nathan au cœur de la ville. Et ne lui reste qu'à s'extraire discrètement de la remorque. Le périple est loin d'être terminé. 60 km le séparent encore de sa femme. Même ce partage, où tous monétisent, le vélo est encore le seul transport accessible à Nathan.
Dans la ville de 2081, c'est des voitures autonomes, voilà, avec un modèle économique associé à ces voitures autonomes pour permettre à ces véhicules de générer des revenus et pas d'être une perte comme c'est le cas aujourd'hui. La voiture, plutôt que d'être au parking et de ne servir à rien, eh ben, elle continue à se déplacer dans la ville. C'est-à-dire qu'on peut la louer, c'est-à-dire qu'elle vient nous déposer, on va dire, au travail ou à la maison. Et puis pendant qu'on bosse, la voiture continue à prendre des passagers et à les déplacer à droite et à gauche et à générer des revenus pour chaque foyer. Je pense que ce serait intéressant et ça permettrait de libérer un certain nombre de parkings.
On a tendance à croire que les innovations technologiques, comme les transports électriques ou la voiture autonome, si on combine les deux, c'est ça qui va changer la donne et qui va résoudre tous les problèmes de mobilité dans les villes. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est d'abord le fait de partager les véhicules qui va vraiment faire la différence sur le plan environnemental. Si à l'avenir, les gens possèdent des véhicules autonomes, il est probable qu'ils se mettent à s'en servir plus. Si vous vous rendez au bureau le matin, vous pouvez commencer votre première réunion sur la route. Vous pouvez envoyer votre voiture autonome récupérer vos enfants à la sortie de l'école, ou se mettre en charge, ou se garer toute seule. Donc, il y a tellement de nouveaux usages que l'on pourrait imaginer avec l'autonomisation que ça risque aussi d'augmenter le nombre de voitures sur les routes. À moins que ces véhicules autonomes ne soient plus individuels, mais partagés. Et là, effectivement, ça change tout.
So in a world with shared mobility, with mobility on demand systems, as we
dans ce futur où les véhicules seraient tous partagés et à la demande, plus personne n'aurait à se préoccuper du stationnement, de l'assurance ou de l'entretien d'une voiture privée. On n'aurait plus les responsabilités que ça implique d'être propriétaire d'une voiture. Et ça, ça change tout. Bon, il y aura toujours quelques très riches qui resteront propriétaires de leur Lamborghini ou autre. Ça, ça ne changera pas. Et ce n'est pas grave. Mais pour les besoins de transport normaux en ville, tout sera partagé.
Nathan est à deux pas de la clinique sans jamais avoir usé la semelle de ses chaussures. D'un bout à l'autre de son trajet, il n'a géré aucune correspondance, n'a subi aucune file d'attente, pas même le moindre retard. C'est que le voyage est une formalité désormais. Dans les villes, le trafic est plus fluide et les véhicules toujours partagés. Les parkings ont disparu.
Vous êtes arrivé à destination. Vous avez parcouru 4032 km en 2h34 minutes. Votre empreinte carbone a été de 500 grammes.
La capsule de Nathan va le déposer dans la gare de la clinique. L'ascenseur le mènera directement à la chambre de sa femme.
Bonjour, nous vous conseillons de vous arrêter à l'étage 13 pour acheter un bouquet de fleurs.
puis de vous rendre au 35 service des naissances, chambre 124.
Nathan peut prendre son temps. Sa lentille connectée vient de l'informer que l'accouchement n'aurait pas lieu avant 30 minutes. Si dans un futur idéal, Nathan a voyagé sans contrainte dans un monde décarboné, le Nathan clandestin, lui, vient de se faire repérer par l'intelligence artificielle de la ville. Le jeune homme l'ignore encore et se précipite vers la clinique. Les drones de police interrompent sa course. La reconnaissance faciale a identifié Nathan à deux endroits distants de plusieurs milliers de kilomètres, alors même que ses crédits déplacement sont insuffisants. Son délit est avéré. Il écope d'une lourde amende et risque l'assignation à résidence.